Vous écoutez, on lit pour vous.
Ces juges qui osent dire à Trump qu'il n'est pas dictateur. Un texte d'Yves Boisvert, paru le 30 mai 2025 dans la presse. On a beaucoup insisté sur la stupidité économique des tarifs mondiaux de Donald Trump. Mais le président a-t-il seulement le droit de décréter des tarifs mondiaux du jour au lendemain? De les faire passer de 145% à 30% pour la Chine, de les annoncer pour le Canada, puis de les réimposer et de les annuler encore en les fixant à 10% pour la potasse et le pétrole, mais à 25% voire 50% s'ils mettent à exécution sa menace de vendredi pour l'acier et l'aluminium, en faisant fi des traités internationaux, y compris ceux qu'il a signés. Le Tribunal de commerce international des États-Unis a répondu non, de manière retentissante, mercredi le 28 mai 2025. Les décrets du président à la base des tarifs étaient attaqués par une douzaine d'États et des entreprises qui importent des biens aux États-Unis. Les trois juges ont conclu que Trump a abusé de son pouvoir. Pour justifier ces décrets, la Maison-Blanche invoque une loi de 1977, la loi sur les pouvoirs économiques internationaux d'urgence, IEEPA, qui accorde des pouvoirs extraordinaires au président pour faire face à une crise économique. Ce qu'on oublie de dire, c'est que cette loi remplaçait une autre loi similaire, que le président Nixon avait utilisé. Nixon, en plus de la première crise pétrolière, avait dû faire face à une crise monétaire qui a mené à l'abandon de l'étalon or pour le dollar américain. Le Congrès a jugé que le président était allé trop loin dans ses décisions et que la loi d'urgence donnait au président des pouvoirs dictatoriaux. C'est donc pour limiter ce qu'un président peut faire au nom de l'urgence économique qu'on a adopté l'IEEPA en 1977. Car il faut comprendre que c'est le Congrès, pas le président, qui a autorité en matière de commerce. L'IEEPA est une cession temporaire de pouvoir par le Congrès au président quand une urgence nationale le justifie, pas quand le président a envie de s'en emparer. De toute manière, la Constitution ne permet pas au Congrès de liquider ses pouvoirs au profit du président. Pour qu'un président puisse utiliser ses pouvoirs, il faut respecter certains critères. Il doit y avoir une véritable menace extérieure à la sécurité nationale ou à l'économie américaine. Cette menace doit être inusitée et extraordinaire. Il faut enfin que l'urgence nationale déclarée soit logiquement liée à cette menace et que l'action du président réponde à cette urgence. Les trois juges concluent que les critères ne sont tout simplement pas respectés. Trump a usurpé le pouvoir du Congrès en jouant au yo-yo avec les tarifs mondiaux. Ni les circonstances extraordinaires, ni le lien rationnel entre ses actions et la supposée urgence n'ont été démontrés. Nous ne disons pas que l'utilisation par le président des tarifs comme outil de négociation est mal avisée ou inefficace, écrit en substance la Cour. La question n'est pas là. Ce n'est simplement pas permis par la loi dans les circonstances. Comme d'habitude, Trump s'en est pris au juge personnellement sur son réseau social. D'où viennent ces trois juges? Comment est-il possible qu'ils aient fait un tel dommage aux États-Unis d'Amérique? Est-ce de la pure haine de Trump? Quelle autre raison pourrait-il y avoir? D'où viennent ces juges? L'un des juges a été nommé par Obama, un autre par Reagan, et le troisième par Trump lui-même. Le président le sait trop bien. C'est pourquoi il s'en est ensuite pris au pilier du conservatisme judiciaire américain la Federalist Society. Lors de son premier mandat, tous les candidats à la magistrature fédérale étaient recommandés ou approuvés par un dirigeant influent de cet organisme, Leonard Leo. Ce fut le cas du juge Timothy Reif, qui vient de dire avec ses deux collègues qu'il ne suffit pas de prétendre à un état d'urgence pour que le président s'empare de tous les pouvoirs commerciaux. Trump a donc traité Leo de « sac à merde » et de « mauvaise personne » qui déteste probablement l'Amérique et a ses propres ambitions personnelles. Ce n'est pas un détail quand on sait l'influence de Leo dans le milieu juridique américain. L'homme peut réclamer la paternité de centaines de juges nommés sous Trump. En particulier, les trois juges de la Cour suprême nommés par Trump qui ont permis de rayer la décision historique de la Cour sur l'avortement, Roe v. Wade. Leo est particulièrement proche de l'ultra-conservateur Clarence Thomas. Mais, dans une réaction typique de cette ère autoritaire, même s'il s'est fait traiter de sac à merde, Leo a réagi en disant qu'il est reconnaissant au président Trump d'avoir changé la magistrature fédérale, bien qu'il reste du travail à faire. L'effet du jugement est suspendu depuis jeudi par une cour d'appel. L'affaire devra être débattue sous peu à nouveau. On devine que la Cour suprême sera éventuellement saisie de l'affaire. Il faudrait tordre la loi pour penser qu'ils sont légaux. Mais ça s'est déjà vu. On est donc très loin d'en avoir fini avec le jeu des droits de douane. Il faudra que l'effet économique soit ressenti par les Américains pour que la pression politique augmente au Congrès. Et encore. Au moins, dans l'intervalle, on voit que des juges de toute provenance trouvent le moyen de dire cette évidence. Donald Trump a beau avoir une âme fasciste, il n'a pas les pouvoirs d'un dictateur. Ils le font en sachant qu'ils seront attaqués violemment par le président et ses porte-voix, insultés sur les réseaux sociaux et probablement menacés personnellement. Car, incroyablement, il faut maintenant du courage aux États-Unis pour simplement rappeler au président qu'il y a un état de droit. C'était « Ces juges qui osent dire à Trump qu'il n'est pas dictateur », un texte d'Yves Boisvert paru le 30 mai 2025 dans la presse.
Fierté Montréal 2025 conjugue résistance, expression et fête. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue. Face à une montée inquiétante de la haine et des reculs en matière de droits de la personne, le Festival Fierté Montréal revient en force pour sa 19e édition avec un mot d'ordre « Fleurir ici, maintenant ». Bien plus qu'un événement festif, Fierté Montréal déploie chaque été une programmation foisonnante qui conjugue revendications sociales, affirmations identitaires, réseautage communautaire et célébration des talents de SLGBTQIA+. Du 31 juillet au 10 août 2025, la métropole vibrera au rythme de trois grands pôles, urbain, village et olympique, qui accueilleront spectacles, expositions, projections cinéma, conférences, activités communautaires, rencontres et moments de communion. Une façon de rappeler que la fierté, loin d'être une fête désincarnée, reste un puissant acte politique. Une scène pour les luttes, une fête pour les droits. Chaque prestation, chaque défilé, chaque prise de parole est une déclaration. Nous sommes ici, nous existons, nous créons et nous revendiquons notre place, affirme Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. Au cœur de cette démarche, le défilé de la fierté du 10 août sera, une fois de plus, un moment phare. Sous la bannière « Fleurir ici, maintenant », le défilé réunira des milliers de participants, participantes, sur le boulevard René-Lévesque. Plus qu'un simple cortège, l'événement annuel donne une visibilité cruciale aux réalités des communautés de SLGBTQIA+, tout en faisant résonner nos luttes et revendications dans l'espace public. La thématique du défilé de cette année, Fleurir ici, maintenant, c'est une réponse directe à celles et ceux qui souhaitent nous effacer. C'est le refus de disparaître, le droit d'exister pleinement, avec fierté, poursuit Simon Gamache. Une programmation qui reflète la diversité queer. Nous mettons cette année un accent particulier sur le village, où une programmation bonifiée mettant en valeur des artistes locaux, locales, a été élaborée avec plusieurs complices. Sur toutes nos scènes, extérieures et en salle, ainsi que lors de dizaines d'activités communautaires, les communautés de la diversité sexuelle et de genre brilleront et nous inspireront, explique Chris Ngabonziza, directeur de la programmation et du développement artistique. Cette édition se distingue par une volonté affirmée de mettre de l'avant les voix et les talents issus des communautés LGBTQIA+ et racisées, avec plus de 250 artistes attendus sur les différentes scènes. Du centre-ville à l'esplanade du Parc olympique, en passant par le village, la richesse des expressions culturelles est au cœur de la proposition. Le pôle village, revitalisé pour l'occasion, accueillera le tout premier marché arc-en-ciel, la scène d'Ovato Mobile, des soirées d'humour avec des artistes locaux, locales, et bien sûr, les journées communautaires, 8 et 9 août, qui offrent une vitrine essentielle aux organismes et groupes de soutien. Dans une conjoncture politique où les droits queer sont fragilisés dans de nombreux endroits du globe, ces moments de visibilité et de rencontre sont plus nécessaires que jamais. Créer des ponts, renforcer les solidarités. Le festival, ce sont aussi des espaces de réseautage, d'échanges intergénérationnels et interculturels. Outre les journées communautaires qui en seront riches, notons la série de soirées de fierté littéraire célébrant les auteurs, autrices et autrices, les projections de Ciné Queer à l'ONF, en collaboration avec Imagination et le Festival du Nouveau Cinéma, ou encore les grandes soirées thématiques comme Féminix, une soirée dédiée aux femmes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres avec Mundo Disco, un hommage vivant à la culture nocturne et aux révolutions queer. Il ne s'agit que de quelques exemples d'événements qui permettent à toutes les identités queer de se reconnaître, de se rencontrer et de tisser des liens. En soirée, les grands spectacles du pôle olympique, tels que la soirée 100% drag, 7 août, Distinction, 8 août, un spectacle où les femmes queer occupent le devant de la scène comme nulle part ailleurs, Excellence, 9 août, et le Mega Tea Dance, 10 août, rassembleront des foules pour célébrer, ensemble, les talents queer d'ici et d'ailleurs. Une programmation ambitieuse, inclusive, résolument connectée aux enjeux contemporains. Des projets pour faire rayonner la fierté au-delà de Montréal. Signe que la fierté dépasse le seul cadre de l'événementiel, une trentaine de projets communautaires financés par le festival seront menés partout au Québec, de Rivière-du-Loup à Val-d'Or, de Trois-Pistoles à Mont-Laurier jusqu'au 10 août. Ces initiatives contribuent à décentraliser les ressources et à faire vivre la fierté partout où les communautés LGBTQIA+ se trouvent. Un festival pour tous. Depuis sa fondation en 2007, le Festival Fierté Montréal s'est imposé comme un vecteur de changement social en misant sur la visibilité, la création et la solidarité. Dans un contexte où les droits des personnes de SLGBTQIA+ sont encore trop souvent précaires, l'événement rappelle avec éclat qu'on peut revendiquer avec joie, militer avec des paillettes et créer des ponts dans la lumière des projecteurs. Info, fiertémontréal.com. C'était Fierté Montréal 2025 conjugue résistance, expression et fête. Un texte d'Yves Lafontaine, paru le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Le panache d'un poète épormiable. Un texte d'Olivier Kemed, paru le 31 mai 2025 dans Le Devoir. 20 mai 1947. Dans la salle du Congress Hall, rattachée à l'église irlandaise Saint-Patrick, sur le boulevard qu'on n'appelait pas encore René Lévesque, un public clairsemé assiste, médusé, à une aventure hors du commun, mais il ne le sait pas encore. Le sait-on vraiment lorsque l'histoire traverse nos murs comme bourrasque folle? Trop souvent, elle ne fait que siffler au-dessus de nos têtes sans que nous nous en rendions compte. Et ce soir-là, du 20 mai 1947, seule une poignée de l'assistance est consciente que les portes d'un nouveau monde viennent de s'ouvrir grâce au coup de bélier, ou plutôt au coup de panache d'un orignal épormiable du nom de Claude Gauvreau. Le jeune poète a 22 ans. Il est totalement inconnu du grand public, mais un groupe le soutient depuis quelques années déjà, une bande de jeunes artistes, parmi lesquels une majorité de peintres, une écrivaine, une chorégraphe déjà active et une autre en devenir, un photographe, un futur psychiatre, une comédienne. Ils s'appellent entre eux la bande à Bordua, du nom de leur maître, mais il y a 3 mois, le journaliste Tancrède Marcil les a baptisés du nom d'automatistes. Sur la scène du Congress Hall, nous parviennent dans l'obscurité 5 notes de piano. Quand les lumières reviennent, un jeune homme en maillot blanc, portant des gants noirs, est debout sur une chaise. Il pose un cadre au mur, aux côtés d'une jeune femme en peignoir, allongée sur un sofa. Je suis le phoque qui a plongé dans les ruisseaux de sirop, battu imperméable, haché comme des notes de flûte, les murs comme des déserts gris nivelant leurs faces longues comme des attentes. C'est le jeune homme qui parle. La jeune femme a beau être avachie dans le sofa, elle n'est pas en reste. Habillée en blanc dans les passerelles hésitantes, nous sommes les bulles de savon, des gorges de folie dans des bassins remplis de transpiration. Oh là, pitre de mendicité, époumonez-vous dans les soutanes centenaires. Claude Gauvreau vient de faire entendre sa langue et c'est une bombe qui explose sur la scène. Les fragments des mots disloqués rejaillissent dans la salle. Le public passe de l'effroi à l'hilarité générale. Ce n'est pas d'hier que le Québec est pris dans une camisole de farce. Ce fut un éclat de rire exorbitant tout à fait général et incontrôlablement hystérique. Tous ceux qui étaient là et qui auparavant nous avaient été secourables refusaient de dépasser certaines bornes. C'était évident. J'éprouvais l'angoisse pour la première fois de la rupture prochaine immédiate. C'est Bordua qui écrit ces mots dans sa correspondance aux côtés de ses amis Pierre Gauvreau, le frère de Claude, qui a conçu le décor en papier journal, Madeleine Arbour qui a signé les costumes, Maurice Perron qui assure la technique. Mais surtout, sur scène, Claude Gauvreau lui-même et sa muse incomparable, la grande actrice Muriel Guilbeault. Claude en est fou, fou d'un amour impossible, il le sait. Elle a été claire là-dessus, mais le poète éperdu lui a quand même ouvert ses entrailles et au milieu de ses viscères littéraires se trouvaient ces quelques pages en forme de théâtre surréaliste, exploréen, automatiste, certainement révolutionnaire, sûrement poétique. Il lui a offert un rôle. La beauté baroque a dit oui, parce que Muriel sait reconnaître un auteur, et sur ce coup-ci, une fois de plus, elle ne s'est pas trompée. 25 ans avant que la pièce maîtresse de Claude Gauvreau, « Les oranges sont vertes », soit créée par Jean-Pierre Ronfard au TNM et que son auteur reçoive enfin la reconnaissance officielle qu'il mérite, la grande Guilboa sut que le toit de la chapelle du Théâtre québécois allait être perforé. Gauvreau, c'est une lumière, celle qui vous éblouit, puis vous brûle. Vous en garderez des séquelles à tout jamais. Le poète entré dans nos âmes par la serrure. Que celles et ceux qui ont peur des brûlures du soleil fuient à grandes enjambées. La douleur dans mon œil, rien. Il n'y a rien à voir. Des pics moussus de vapeurs vertes plus épaisses que des peaux d'ours. Mon œil bat. Mon œil amoindri, mon œil blessé, la douleur dans mon œil, lumière qui rend aveugle. Le glissement marchand de la culture. Ces derniers jours, on a célébré, à juste titre, une augmentation significative du soutien à la culture par le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec. Si on doit saluer le geste, il importe de nous poser la question qui dérange. Un soutien accru, certes, mais à qui et à quoi? Le glissement marchand, la chute non pas du dollar vert, mais vers le dollar, n'en finit pas de nous entraîner dans une prime aux billets déguisés. Sont surtout soutenues les démarches qui remplissent les salles, qui sont drapées de couvertures médiatiques, qui trônent dans les palmarès, qui reçoivent les prix, qui revendiquent médiation, guérison, communion, bénédiction, bref, qui sont reconnus par les instances mises en place. Le pouvoir, donc. Comment pourrait-il en être autrement? Ce même pouvoir qui s'esclaffa le 20 mai 1947, puis passa 25 ans à se moquer de Claude Gauvreau. Des Judas viennent gratter le sol de nos pelouses, la verge à l'air. Absurdité plus vraie que les monts barbus, enflure critique. J'en discute canoniquement. Voix de pépite brassée dans les mains russes bûcheronnes. Quand on évoque la censure, je pense à Gauvreau. Quand j'assiste à des spectacles étincelants, quand je lis des œuvres profondément originales, éloignées de toute morale consensuelle, mais qui n'ont reçu aucun soutien, je pense à Gauvreau. Quand j'entends des gens se moquer de la poésie, de la folie et de l'audace, je pense à Gauvreau. J'y pense donc souvent. Et pourtant, comme les aventures comme celles de bien-être sont salvatrices, comme ses cris sont libérateurs. Bordua ne s'y trompe pas, lui qui a perçu ce soir-là que deux réalités sociales se sont rencontrées. Ça y est, le maître ne peut plus faire marche arrière. Depuis quelques mois, l'idée d'écrire un manifeste a germé dans sa tête. On connaît la suite. Riopel revient des Europes avec un manifeste sous la main. Rupture inaugurale, rassemblant des surréalistes proches de Breton qui refusent tout assujettissement de leur art à un dogme. Refus global, lui aussi rejettera toute idéologie, souhaitant une transformation radicale des attitudes, des désirs, des espoirs. On l'oublie souvent, mais la publication originale du Brûlot, tirée à 400 exemplaires, un autre exemple de la relation absurde entre gros tirage et impact profond dans sa société contient bien évidemment le manifeste éclatant de Bordua, réparti sur 16 pages, mais aussi d'autres textes en forme de courts essais, signés Françoise Sullivan, Bruno Cormier et Fernand Leduc, le tout émaillé de photos des œuvres automatistes prises par Maurice Perron. On n'y retrouve aucune œuvre artistique, fictionnelle, mis à part trois courtes pièces de Claude Gauvreau, « Au cœur des quenouilles »,« L'ombre sur le cerceau » et « Bien-être ». Tous les automatistes se sont entendus pour loger l'œuvre théâtrale de leur ami au cœur de leur projet révolutionnaire. Les mots du poète comme les armes du maquis. Le théâtre vu comme l'un des outils de la subversion. Mais en ce soir du 20 mai 1947, ce sont les gorges chaudes de la pensée conservatrice qui se manifestent le plus bruyamment. ces mêmes gorges qui riront de Claude Gauvreau tout au long de sa vie. Le 10 novembre 1955, il s'en ouvre à son maître dans une lettre déchirante. « Cher Bourdieu, je suis devenu l'idiot du gros village, ou, du moins, l'un des idiots. On ne se gêne plus devant un paria de mon acabit. Peut-être croit-on que l'inaptitude à parler aisément veut dire l'incapacité de comprendre tout de l'ambiance. C'est une erreur. J'entends, je saisis, et je dois subir sans bouger. Cher Bourdieu, j'aperçois votre vie qui s'élargit sans cesse. La vie est opulente. Moi, c'est la surabondance des inaccessibilités qui me tue. Je ne sais plus l'art d'approcher, de toucher, de posséder. On ne peut plus m'aimer, on ne peut plus aimer ce que je suis devenu. Il faut que je meure. Ah, que je préférerais vivre, si je pouvais. Un suicidé de la société. Sa mort, survenue la veille du début des répétitions des Oranges sont vertes, le 6 juillet 1971, Claude la prépare depuis le suicide de sa muse Muriel Guilbeault. C'est peu de dire que son pays ne l'a pas aidé, faisant de lui, pour paraphraser le titre du livre d'Antonin Artaud sur Van Gogh, le plus beau texte qui n'ait jamais été écrit sur la peinture, affirmait Riopel, un suicidé de la société. Et pourtant, le poète qui n'a jamais voulu être maudit appelait de tous ses vœux et de tous ses mots un bien-être, à la fois individuel et collectif. Sa crainte ne se manifestait que lorsque le désamour profond de ses contemporains se transformait en réaction violente à son endroit, huée, moquerie, indifférence, censure. J'ai peur dans les douceurs inhumaines. Toute cette curée l'atteignait et a fini par l'éteindre. Claude Gauvreau, le poète dramaturge le plus courageux et le plus audacieux que le Québec ait porté en son sein, ne formulait qu'une seule demande, si simple qu'elle me bouleverse chaque fois que je la lis, et qu'on pouvait entendre déjà en ce soir du 20 mai 1947. J'ai besoin de tendresse dans les palmes de mon inquiétude. C'était le panache d'un poète éparmiable, un texte d'Olivier Quémède paru le 31 mai 2025 dans Le Devoir.